Les experts, débats et controverses sur BFM Business.
Bonjour chers experts, merci d'être avec nous pour ce dernier jour avec une ambiance un peu valise, départ de train, vacances et tout ça. On a le plaisir d'accueillir Laurent Vronsky. Bonjour Laurent.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous ce matin, directeur général d'Hervor. En face de vous, Christian Boissieu. Bonjour Christian, merci d'être avec nous, vice-président du Cercle des économistes. Et à vos côtés, Olivier Luancy. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, professeur au CNAM et auteur de Réindustrialiser le défi d'une génération. Beaucoup d'actualités économiques là ces dernières heures. On va essayer de reprendre un petit peu chronologiquement et puis de faire des focus parce qu'elle continue à se développer quasiment en temps réel ce matin. Il y a une prise de parole donc de la Fed qui était attendue, pas de surprise, taux inchangé. Dernier acte pour Jérôme Powell qui va rester quand même au bord de la Fed. Mais au-delà de ça, des commentaires quand même qui commencent à devenir de plus en plus inquiets au sein de la Fed avec des dissensions. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu autant de divisions, je vous regarde Christian, au sein de la Fed. Quand on regardait les notes de la dernière réunion de la Fed, c'était une inflation qui s'emballait. Maintenant, le mot légèrement a été gommé et on voit que la crispation commence aussi à agiter par rapport à l'environnement macroéconomique et la guerre au Moyen-Orient, commence à agiter la Fed. Quel bilan vous tirez un peu de cette prise de parole?
D'abord, je dirais les faits sont têtus et l'inflation a beaucoup monté sur le seul mois de mars. Il faut partir des chiffres. En mars 2026, sur 12 mois, l'inflation américaine a été à 3,3%, donc en rythme annuel. En février, elle n'était que de 2,4%. Sur un mois, un point de plus. Et je pense que ça n'est pas fini, car même si les Américains sont, j'allais dire, autosuffisants de point de vue énergétique, ils sont quand même très influencés par l'évolution des prix internationaux, du pétrole, du gaz, etc. Et donc, ma prévision, je peux me tromper, hein, mais ma prévision, c'est que le 3,3 en rythme annuel de mars, je parle de l'inflation américaine toujours, va continuer à monter. La Fed, comme les autres banques centrales des pays avancés, a un objectif de 2% d'inflation, j'allais dire sur le moyen terme. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'avoir 2% chaque année, mais disons, les banques centrales disent, si on a un peu plus une année, si ça se compense l'année d'après, pourquoi pas. Mais attendez, les chiffres que j'ai rappelés montrent que la Fed est quand même s'éloigne de plus en plus de son objectif d'inflation de 2%. Ça va peser, ça pèse déjà sur la consommation, parce que ça pèse sur le pouvoir d'achat. Les Américains, comme chez nous en France, la remontée de l'inflation a déjà commencé à peser sur le pouvoir d'achat. Et ça va peser sur les élections de mi-terme de novembre. Parce que, comme disait l'autre, it's the economy, stupid. Le résultat des mi-termes en novembre va quand même pas mal dépendre du contexte économique qui se présente pas très bien, en tout cas du côté des prix. Alors, je termine en disant que la Fed est prise entre deux feux, parce que d'un côté, le président américain qui respecte pas l'indépendance de la Banque centrale réclame depuis deux mois des baisses de taux. Il y en a eu qui sont intervenues légères, mais là, la Fed, clairement, elle a quand même un mandat. Elle a un mandat dual, c'est-à-dire inflation et croissance et emploi de l'autre côté. Mais enfin, je veux dire, quand vous regardez les chiffres, certes, la croissance américaine ralentit un peu, le chômage augmente un peu à partir de niveaux qui sont relativement bas, je parle du taux de chômage, mais quand même, le danger à court terme, c'est plus l'inflation du côté américain que la récession. Je ne parle pas de l'Europe, je ne parle pas de la France. Vous avez évoqué les chiffres. On va en parler, les chiffres de la France au premier trimestre. Mais les États-Unis ne sont pas en récession aujourd'hui. Donc la Fed, elle doit faire le job. Et je pense qu'avec le nouveau président qui s'appelle Kevin Warsh, qui a l'air d'être pas mal sur le plan, je veux dire, du raisonnement économique. Moi, je le reçois à son examen, si vous permettez de jouer mon rôle de prof. Bon, il va être confirmé parce qu'il y avait un blocage du côté d'un sénateur républicain.
La situation est en train de se dénouer.
Voilà, qui disait si Monsieur Trump continue à chercher des poux dans la tête de Jérôme Powell sans le laisser tranquille jusqu'à la fin de son mandat, et ben moi, sénateur républicain, je voterai pas la confirmation du nouveau président et ça se joue à très peu de temps. Donc, Kevin Warsh va être confirmé, mais il arrive dans un contexte où, devant le Sénat, depuis une semaine, il jure par ses grands dieux qu'il va respecter l'indépendance de la Banque centrale. sous le feu, j'allais dire quasi quotidien, du président américain qui lui dit « faut baisser les taux ». C'est pour ça que je vous ai nommé. Voilà, voilà le contexte.
Réaction, Olivier Hollande, sur, on va dire, ces commentaires de, au-delà de, du rôle de Jérôme Powell, hein, c'est-à-dire l'état de l'économie américaine, tout simplement, finalement.
Alors, moi, j'ai aussi des chiffres, c'est pas les mêmes. Nous, on est très en amont, mais qui corrobore exactement ce que vient de dire Christian, parce qu'on travaille beaucoup avec les États-Unis. Nous, les chiffres qu'on a, si vous voulez, c'est les factures d'achat. Notamment les factures d'achat pour le transport, pour les carburants, mais pas que. Pas que. C'est-à-dire qu'il faut oublier, il faut pas oublier qu'il y a toute une série de composants qui rentrent dans la fabrication de nos produits. Et là, les fournisseurs n'ont pas perdu un instant pour rehausser les prix. Il faut pas aussi.
Ça a été très immédiat, ça.
Ah, mais c'était quasi instantané. Je veux dire que l'économie réagit immédiatement. Il faut savoir que les chiffres dont parle Christian, vous êtes des, je veux dire que c'est une statistique. C'est-à-dire que on regarde, c'est un film, on regarde ce qui s'est passé depuis 3 mois. Nous, c'est instantané, je peux vous le dire. La deuxième chose, il faut pas oublier qu'avant le début du conflit, les mesures de Monsieur Trump sont très largement inflationnistes. Et ça, on l'a oublié. Notamment, toutes les questions qui sont liées à la main-d'œuvre, qui est comme l'un des drivers principaux de la reprise de l'inflation. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a un vrai sujet sur de la main-d'œuvre qualifiée, de la main-d'œuvre tout court. Donc ça, ça ne s'est pas évaporé comme par enchantement. Donc moi, je ne sais pas lire l'avenir, ça saurait. Mais je pense qu'on n'est pas du tout dans une hausse de prix temporaire. Et qu'on est sur une reprise de l'inflation. Et comme on le sait, c'est que souvent, quand les prix ont augmenté, après, pour revenir en arrière, c'est très, très difficile. Et je ne parle même pas des matières premières, parce que quand je parle des matières premières, en tant qu'industriel, c'est pas que le pétrole, c'est tous les métaux précieux et autres. Il y a quelque chose dont on ne parle absolument pas, c'est le tungstène.
La base de l'industrie.
Ah oui, je veux dire, il y a un vrai sujet aujourd'hui sur le tungstène. Je rappelle que pour les néophytes, on utilise le tungstène dans tous les outils de coupe qui servent à usiner et à fraiser des pièces. Pas de tungstène, pas d'outils de coupe, pas d'outils de coupe, pas de pièces.
Voilà. Donc, non, mais c'est important cet avis parce que c'est du vécu tel que vous partagez, Olivier, sur la situation américaine. Non, mais juste le coup d'œil, j'allais dire, sur l'état de l'économie américaine au-delà de la Fed.
Hein. Bon, moi, j'ai une vision qui est plus micro. Hein. Je pense qu'elle a été bien expliquée.
Elle est complémentaire aussi.
Aujourd'hui, moi, ce que j'entends surtout, et je vais peut-être vous permettre de faire la bascule, c'est l'inquiétude sur la situation européenne et du marché.
Hein. On va y venir. Là.
C'est-à-dire que vous avez des activités aux États-Unis, ça vous permet de donner un regard de chef d'entreprise en micro sur l'économie américaine, complémentaire à celui qui vient de donner Christian. Moi, ce que j'entends des chefs d'entreprise français, et notamment industriels, c'est surtout une inquiétude sur la situation économique de la France et de l'Europe, et où on a un sujet de croissance avec des chiffres qui viennent de tomber et qui font tomber le voile. C'est-à-dire que ce qui était vécu par les chefs d'entreprise au quotidien, avec une situation très dure, très difficile, n'était pas reflété dans les chiffres macro qu'on nous présentait. Ben voilà, on vient de,
La facture est tombée. Là.
La facture est tombée, le voile vient d'être déchiré.
On va préciser, Olivier, pour que chacun comprenne, hein, et puis Christian, je vous laisse réagir. Donc ce matin, il y a une double publication de l'INSEE. D'abord, il y a vraiment l'élément un peu surprise de la matinée, c'est que la croissance française au premier trimestre ressort nulle, c'est-à-dire 0%, ce qui est une très mauvaise augure pour le reste de l'année, sachant que l'objectif était à 0,8, 0,9, en nul au premier trimestre, c'est plutôt un scénario récessif qui peut se dessiner. Et puis, pour rebondir sur ce que disait Christian, puisqu'on va traverser l'Atlantique, on va s'ancrer aussi côté France, ça va pas tellement mieux aussi sur l'inflation, puisque l'inflation en avril a bondi à 2,2%. Alors là, on est en plein dans le choc énergétique.
Et je rappelle,
énergétique.
Olivier permet... On est à 2,2 en avril, on parle de la France.
Oui.
En mars, en rythme annuel, on était à 1,7. Et en février, on était à 0,9. Donc vous voyez le phénomène d'accélération dans un contexte où il y a encore dans les tuyaux, et je rejoins ce que vous disiez tous les trois, c'est-à-dire il y a dans les tuyaux un potentiel de sursaut d'inflation supplémentaire, qui me paraît clair. Bon, et par rapport à la croissance en Europe, je suis complètement d'accord avec ce qu'ont dit Laurent et Olivier, c'est-à-dire que l'Allemagne, avant même les dernières nouvelles, je veux dire la semaine dernière, l'Allemagne a déjà divisé par deux sa prévision de croissance pour 2026, ils sont à 0,5, 0,6, ils étaient à 1%, et l'Allemagne, elle sort quand même d'une période de 2 années de récession et d'une année à zéro l'année dernière, donc pas terrible, et nous, je pense que le gouvernement va être obligé, au moment où on parle déjà de la préparation de la loi de finances pour 2027, on va être obligé, pour des raisons de transparence et démocratique, je dirais, dans les relations entre gouvernement et Parlement, on va être obligé, assez vite, sans courir après les événements, de réviser à la baisse la prévision de croissance. Ça veut dire moins de rentrées fiscales. Ça veut dire plus de dépenses, ça veut dire... On était très contents à la fin de l'année dernière, 2025, parce qu'on avait fait, en 2025, un déficit public de 5,1%. Je parle toujours de la France. Alors qu'on attendait 5,4%, doucement, le cocorico. Je veux dire, ça va être compliqué.
Bah, l'objectif
dans un contexte politique que je n'ai pas besoin de décrire.
Oui, l'objectif des 5%, qui est l'objectif de cette année...
Très compliqué.
S'annonce très, très, très...
Et vis-à-vis de Bruxelles, alors, vous avez vu, parenthèse, que... en Allemagne, il y a quand même un débat parce qu'ils sont en coalition, mais certains voudraient un peu mettre en parenthèse le pacte de stabilité budgétaire en disant nous sommes dans une période exceptionnelle, exceptionnellement difficile, et donc faut-il continuer à respecter les normes européennes. Je ne prends pas parti à ce stade-là, c'est compliqué, mais je dis, la question, elle apparaît, et je pense qu'elle va être relayée du côté français, à tort ou à raison, hein, à la lumière de ces chiffres.
Alors, Laurent Olivier, je vous entends sur la situation française. Là, il y a le vécu tel que vous le décriviez, Laurent, qui est intéressant, c'est-à-dire l'impact outre-Atlantique qui a été très immédiat. Ce que décrivait Olivier aussi, finalement, une espèce de décalage où on était encore dans des projections, on en a plus 0,3, plus 0,4, et puis la facture finalement est tombée ce matin entre ce qu'on ressentait tous les uns les autres, de la réalité de quelque chose qui se dégrade quand même de semaine en semaine. Là aussi, vous sentez cette dégradation locale en France, chez Hervor, tout simplement.
Bah, je dois rendre hommage à l'émission parce que les doutes sur les prévisionnels de croissance,
ouais, on les a dessus,
ils ont été évoqués dans cette émission, pas la semaine dernière. Hein. Ça fait des mois. Ouais. Dans le tissu industriel que je pense modestement bien connaître, le ralentissement généralisé, il s'est pas opéré la semaine dernière. Moi, je l'ai clairement dit ici, il y a 6 mois, je veux dire que nous avons des sous-traitants qui travaillent, qui sont multisecteurs, hein, et qui ont de la capacité. Ça, c'est un indicateur qui est fort. Quand vous avez des stocks de matières premières qui s'empilent, ce sont des indicateurs qui sont forts. Donc, nous avons clairement alerté sur ce risque. Et quand on a eu les prévisionnels de croissance, je vais être un peu impertinent, mais si vous voulez, c'est toujours...
On est là pour ça.
Quand on fait des budgets, alors on fait des prévisionnels de croissance, et honnêtement, parfois, on se demande d'où ça sort.
Du hors-sol.
On se dit, mais avec tout l'appareil statistique qu'on a, toutes les compétences qu'on a... Bah, peut-être que certains, je vais encore une fois être un peu impertinent, il faudrait peut-être qu'ils écoutent les experts. Parce que les gens qui sont dans le concret ont vu le ralentissement il y a 8-9 mois.
Donc plutôt l'été dernier.
Exactement. Alors là, en ce moment, on est confronté quand même à deux secteurs forts qui sont vraiment en difficulté, c'est l'automobile. Ça, c'est pas arrivé la semaine dernière, okay, avec tout le réseau de sous-traitants derrière.
Énorme.
Vous avez aussi un secteur dont on parle peu parce qu'on pense que comme il y a des commandes records, eh bien que toute la sous-traitance est florissante, c'est l'aviation civile. Je dis bien qu'il faut distinguer l'aviation civile de l'aviation militaire parce que dans l'aviation civile, vous avez des fournisseurs avec des marges extrêmement minces.
Oui.
Ok, donc qui s'apparente à ce qui se passe
Et un Airbus qui a du mal à monter en puissance sur
mais
le.
Mais oui,
sur
mais c'est la poule et l'œuf parce que pour monter en capacité, il faut investir et l'argent ne tombe pas du ciel, contrairement à ce que pensent certains. Et puis le troisième secteur, je crois que là, j'ai pas besoin de faire un long développement, c'est tout ce qui touche de près ou de loin au bâtiment, l'immobilier, la construction, la promotion, tout ce qui tourne autour. Donc on a quand même des secteurs importants qui ne tournent pas bien. Et qui, si vous voulez, ont un impact direct sur le prévisionnel économique du pays.
Olivier Flamet, juste une phrase.
Christian.
Olivier, juste une phrase par rapport à ce que dit Laurent. La hausse des taux d'intérêt qui est dans le tuyau ne va pas améliorer les choses.
Ah, bah, ça, c'est sûr.
C'est certain. Notamment sur l'immobilier.
J'ai l'impression que ce matin, et merci Laurent de le signifier, c'est-à-dire que nous, ce qu'on ressentait, nous, collectif étant des experts, et le fait qu'on se rencontre depuis plusieurs mois, à ce matin, ça devient quelque chose enfin sur lequel on peut discuter un peu sérieusement. Vous n'êtes pas surpris non plus parce que finalement ce coup de frein, enfin, qui est expliqué comme un coup de frein, mais qu'on voyait arriver depuis des mois et des mois et des mois.
Alors, on le voyait arriver, on a averti, on est plusieurs à l'avoir fait. Il est vrai qu'il y a des filières qui vont dit industriels du moins, qui vont relativement bien, tandis que d'autres vont très mal. Bon, l'aéro, c'est vrai que sur aujourd'hui, les sous-traitants, il y a un problème de montée en capacité, mais globalement, la filière tire. Sur l'énergie, ça va tirer aussi. Donc, il y a quelques grandes filières sur ce qu'on a appelé les technologies vertes. Alors, c'est vrai que c'est un renfort d'argent public qui va se raréfier, mais ça tire pas mal. Et donc, on a quand même un paysage industriel qui était hétérogène. Ceux qui observaient un peu la globalité, et la référence aux sous-traitants multisecteurs est excellente pour prendre un point de température, c'est que globalement, il y avait une souffrance en moyenne. Il y avait des filières qui vont vraiment très mal, je les ai citées, l'automobile, d'autres qui tenaient bien, mais globalement, on voyait pas la croissance qui nous était, ou la bonne humeur qui nous était affichée dans des grandes déclarations, dans des grandes inaugurations, dans des grands discours. Voilà. Donc aujourd'hui, les faits sont têtus. La réalité économique revient. Quelque part, les prévisions, c'est bien, mais c'est le micro qui fait la richesse de tous les jours qui doit être distribué, qui crée la richesse dans les entreprises et qui est redistribué. Alors, maintenant, l'espoir qu'on peut avoir, mais encore une fois, l'échéance politique majeure en France de 2027 se rapproche, c'est est-ce que sur la base de cet atterrissage, d'une certaine façon, de cette jonction entre le micro et le macro, on va enfin pouvoir avoir un diagnostic réel et enclencher une réflexion collective, sereine, stable, robuste. Voilà un peu le pari qu'on a à 12 mois des élections présidentielles. On n'est pas dans une boule de cristal, mais on est un peu dans l'utopie, quoi, quand même.
Ah, un pari redoutable.
Question. J'aimerais bien, mais j'y crois pas trop.
Ouais.
Voilà. J'aimerais bien parce que, effectivement, la situation est très compliquée. Par rapport à ce que disait Laurent, ce que vous avez dit tous les deux, c'est que les problèmes ont commencé avant la guerre au Moyen-Orient, je veux dire.
Absolument.
Déjà, l'affaire des droits de douane nous a mis dans un climat quand même assez délétère, montée du protectionnisme. Et très franchement, je veux pas, on a tous eu raison, eu tort sur certains points, mais quand je parlais il y a quelques mois autour de cette table des conséquences des droits de douane, Trump et la réponse, on voyait bien que ça allait avoir deux effets. Un effet inflationniste, y compris du côté américain, et un effet récessionniste. Alors, les événements dramatiques au Moyen-Orient rajoutent une couche. Et par rapport à ce que disait Olivier, j'allais dire, il y a l'échéance de 2027 qui est très importante, et il va y avoir un problème d'articulation entre le court terme et le long terme, à la fois de la part des candidats et du côté de l'opinion publique, des Français. Est-ce que ça va être le moment ou pas de rouvrir les débats sur un certain nombre de réformes? Et quand je dis réformes, c'est pas uniquement le débat sur la réforme des retraites, les problèmes industriels, l'articulation industrie-service, les problèmes de formation, d'éducation, je veux dire, pour moi...
Majeur.
On est plusieurs autour de cette table à être professeurs, je veux dire, c'est majeur, et moi, à titre ponctuel, par exemple, mais c'est pas ponctuel, je suis très inquiet de voir que les contraintes sur les finances publiques, qui vont faire que s'accentuer, conduisent le gouvernement à mettre en cause une grande partie de l'apprentissage et de l'alternance. Ça a l'air d'un...
Olivier qui lève les mains.
On en a tellement parlé ici que... Mais tout à fait.
J'étais pas avec vous à ce moment-là. C'est pour ça que je me permets de le dire.
Bien sûr, partage.
C'est très inquiétant.
C'est hyper inquiétant.
Voilà, donc, il faudrait que les chances fondamentales de l'année prochaine soient l'occasion de remettre à plat un certain nombre de choses. Il risque d'y avoir de part et d'autre le primat du court terme, et pour remettre à plat, il faut quand même essayer de définir une vision, une stratégie au moyen long terme. C'est le problème de l'articulation des horizons.
Tout à fait.
Laurent, vous voulez y réagir?
Oui, sur quelques éléments qui ont été mentionnés. Nous parlions tout à l'heure de l'inflation aux États-Unis, mais il faut savoir que les droits de douane qui ont été imposés par Trump, nous, nos produits, du jour au lendemain, c'est pris 35%. 95% de ces droits de douane n'ont pas été pris en charge par les exportateurs. Ils ont été répercutés sur les prix américains. Donc c'est 95%.
C'est une forme d'impôt finalement.
Donc c'est 95% des Américains qui ont payé cette surcharge protectionniste. Ça c'est la première chose. Donc ça c'est quand même assez
inflationniste. Et mécanique inflationniste.
Par rapport à ce que disait Olivier, ça c'est très intéressant, c'est que tous les chiffres qui nous abondent sont des chiffres qui sont des moyennes. Donc c'est aussi bien les entreprises qui marchent qui ne marchent pas. Enfin, quand je dis ça, je crois que j'apprends rien à personne. Ce que je constate, c'est que toutes les entreprises industrielles qui ont une vraie proposition de valeur, qui ont vraiment des produits très pointus sur des segments, sur des niches, elles vont très bien. Nous en faisons partie. Bon, il faut dire que c'est la conséquence d'une part de la raréfaction de l'offre industrielle, c'est-à-dire que le besoin existe toujours, mais il y a moins d'entreprises pour les fournir.
Les survivants, quelque part.
Les survivants, bah, ceux qui ont développé les anticorps et qui se sont positionnés à l'international. Maintenant, la dernière chose concernant l'enseignement, parce que moi j'ai un pied dans l'enseignement, puisqu'on a démarré un projet qui s'appelle Espérance Banlieue, on ouvre des écoles. Un pays qui fait le choix uniquement de la redistribution sans se soucier d'investir massivement dans l'école et dans les élèves est un pays qui est condamné à terme. Et je pense que c'est très inquiétant de voir qu'aujourd'hui, en plus avec il y a eu une réforme qui est passée quasiment inaperçue, c'est le cumul emploi-retraite, donc qui permet à des gens qui ont la sagesse, les anciens, de rester plus longtemps pour se frotter avec des générations jeunes qui arrivent. La réforme du cumul emploi-retraite fait que ces gens-là ne sont plus incités aujourd'hui à travailler et à rester dans les entreprises. Donc, on a une école qui est quand même qui est hoquette. On a des anciens qui partent plus tôt. Et on a une succession de défis technologiques, sociologiques, internationaux qui arrivent.
Et démographiques.
Et démographiques. Donc, là, vous voyez, c'est quand même un t'embêtant, peu inquiétant.
T'embêtant. Moi, dans la vie, je suis plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Enfin, depuis le début, je constate que, y compris votre serviteur, nous sommes dans un contexte un peu morose, pour ne pas dire plus.
Hein juste avant qu'on marque une pause, il y a quelque chose sur lequel je voudrais entendre mes commentaires sur la publication de la note de l'INSEE là, sur la croissance au premier trimestre. Parce qu'il y a, après, il y a le détail, on va dire sur la conso, ça commence à caler. La conso des ménages fait moins 0,1% au premier trimestre contre plus 0,4% au dernier trimestre 2025. Mais là, le gros trou d'air, c'est le commerce extérieur. Le gros trou d'air, fortement négatif, c'est-à-dire le commerce extérieur sort à moins 0,7%. Points après plus 0,6 points au dernier trimestre 2024, et les exportations se replient, on est à moins 3,8 après plus 0,8. C'est-à-dire qu'il y a un trou d'air absolu sur le commerce extérieur français. Ça vous surprend, Laurent Olivier ?
Un petit peu. Moi, je demande à regarder un peu plus dans la précision. Quelque part, on a toute notre structure de coûts, hein, et puis les effets en retard des taxes Trump. Hein, on sait très bien que quand elles ont été annoncées, il y a eu du stock qui a été fait ou de la commande en avance qui a été faite.
En partie, s'en sort avec les stocks, hein, d'ailleurs.
Alors, et donc là, maintenant, je pense qu'on a ce type d'effet. Je vous rappelle, les États-Unis, ça doit être quasiment 13 ou 15% des exports de l'Union européenne, hein, ou de la zone euro. C'est naturellement impacté. Voilà, petit commentaire.
Les stocks, justement, contribuent à 0,8%. Sur le PIB, c'est-à-dire ce que signalait Laurent à l'instant.
Si je peux dire juste un mot, ça traduit le contexte mondial, qui est, j'allais dire, déprimé, dépressif, récessif. Bon, alors il y a encore des poches de croissance. Il y a des poches de croissance dans certains secteurs, la défense. Alors ça rejoint les débats. Dual, pas dual, civil, militaire, est-ce que l'augmentation des dépenses de défense peut profiter ou pas aux civils en France, en différence des États-Unis, on ne gère pas très bien cette dualité civil-militaire du point de vue de la recherche, je pense. Et puis, il y a le problème des contrastes entre pays. Moi, je regardais les dernières prévisions du FMI qui ont été publiées la semaine dernière, il y a 15 jours à l'occasion de l'Assemblée annuelle. Bon, ce qui me frappe, c'est que le FMI est extrêmement conservateur dans ses prévisions par rapport à ce qu'il disait au mois de janvier. Je parle des prévisions d'avril. Depuis deux mois, on est quand même dans une drôle de situation sur le plan international. Eh bien, le FMI continue à prévoir pour aujourd'hui, c'est-à-dire 2026, l'année prochaine, des croissances mondiales à 3 et quelques pourcents. Alors, il y a la Chine ralentit, il y a un certain nombre de pays émergents, dont l'Afrique, subsaharienne, dont on parle pas assez. Moi, très africain, si je puis dire, dans mes centres d'intérêt, je constate que l'Afrique est un peu le sacrifié des débats actuels, excusez-moi de le dire. Et pas que l'Afrique, d'ailleurs. Mais je veux dire, il faut pas s'étonner après que ce qu'on appelle le Sud global, concept un peu vague, continue à contester le poids, l'importance du Nord. Et je termine là-dessus parce que, travaillant sur les questions monétaires, il y a une petite nouvelle qui est pour moi un indicateur significatif. Les Iraniens ont dit qu'ils allaient peut-être ouvrir le détroit d'Ormuz à condition que les Américains fassent de même, etc. Je te tiens pas la barbichette. Ils ont dit, ben, on fera payer un droit de douane, un péage, en rial iranien, monnaie faible que personne ne connaît, etc. Mais je veux dire, on est dans un monde où l'économie va pas bien, la géopolitique est très, très, très agitée, et vous avez des contestations à la fois est-ouest et nord-sud qui existent, il faut être réaliste, et qui sont pas terribles pour l'économie mondiale. Donc j'ai terminé vraiment en disant que moi ça m'a vraiment étonné ces dernières prévisions du FMI qui revoient à peine les prévisions qu'il faisait au mois de janvier. Et je me dis que d'où ça sort.
Alors, en tout cas, ce matin, on aura vécu ce qu'on partageait depuis des mois sur ce plateau-là, c'est le fait que enfin l'INSEE s'aligne sur ce que nous on ressentait au sein des experts depuis au moins septembre.